France Culture.
À voix nue, épisode 2, l'histoire comme science sociale. Bonjour Gérard Noiriel.
Bonjour.
On vous a quitté, vous entriez à peine à l'université dans l'épisode 1. J'aimerais bien qu'on commence cet épisode 2 par votre entrée à l'université, parce qu'on va voir comment vous en êtes venu à faire de la socio-histoire et essayer de comprendre votre itinéraire intellectuel. Mais peut-être cela commence-t-il par le militantisme à l'Union des étudiants communistes, la découverte du marxisme comme une chance, dites-vous, peut-être comme une libération dans les années 70.
Tout à fait, oui. Disons que mon entrée à l'université a été assez difficile, au sens où donc j'étais auréolé d'une première année par téléenseignement, et c'était extrêmement mal vu par la corporation universitaire. Je me souviens que le professeur d'histoire contemporaine qui régnait sur l'université de Nancy, qui s'appelait Pierre Barral, m'avait reçu dans son bureau, et quand je lui ai dit que j'avais eu ma première année par téléenseignement, il m'a dit, bon, en gros, bon, bah oui, vous pouvez vous inscrire pour passer le DEUG, mais vous arrêterez au DEUG. Parce que, voilà, vous n'avez pas les bases, etc. Enfin, il y avait ce discours. Et il faut voir qu'à l'époque, c'était les débuts de la massification de l'université. Donc, je faisais partie, vous voyez, de ces nouveaux entrants qui étaient un peu regardés de travers, en disant, mais qu'est-ce qui vient de nous embêter dans ce lieu qui, au départ, était réservé aux élites, etc. Et donc, les amphis étaient, je me souviens d'amphis complètement pleins au début, vous voyez. Et donc, on nous assénait au début des cours. Le premier cours, c'était un cours de géomorphologie. Rien que le mot, si vous voulez.
Ça faisait fuir.
Et donc, on n'y comprenait absolument rien. Et au bout d'un mois, vous voyez, les rangs clairsemés, etc. Enfin, voilà. Donc, moi, je me suis accroché, mais la raison pour laquelle je me suis accroché, elle n'était pas tellement scientifique à l'époque. C'est qu'en arrivant à la fac à Nancy, pour moi, ça a été un moment, le premier moment de ma vie où il y avait la liberté. Parce que j'avais été toujours contraint dans ma famille. Et puis après, à l'école normale d'instituteurs, c'était l'internat, c'était une autre forme de contrainte. Et là, la liberté. Mais cette liberté, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je ne savais pas ce que j'allais en faire. J'aurais pu basculer du mauvais côté. Hein. Mais, c'est pour ça que je dis que le marxisme était une chance. Nancy était une fac où l'UNEF, le syndicat étudiant, était très développé. Et il y avait des liens forts entre l'UNEF et l'UEC. Et donc, si vous voulez, les dispositions que j'avais en moi et qui venaient de mon parcours et des sortes d'injustices que j'avais subies, plus voilà, le milieu
discrimination,
social,
discrimination, ségrégation.
Voilà, je voyais un langage, pour la première fois, parce que mes parents n'étaient pas du tout politisés, etc., mais qui me permettait, vous voyez, de nommer, trouver des explications, et donc de me dire, je vais être utile aussi par rapport à ce que je n'ai pas pu faire quand j'étais enfant dans ma famille, etc. Donc, je me suis engagé vraiment à fond dans le militantisme, à ce moment-là. Et dans le militantisme, c'est pour ça que je défends toujours. Moi, j'ai toujours été militant de base, dont les discours sur le totalitarisme, etc., etc. C'était peut-être vrai à un certain niveau, mais nous, c'était un dévouement. Moi, j'étais dans une cellule avec des ouvriers, etc. Enfin, il y avait vraiment une véritable, oui, une dimension collective que j'ai jamais reniée, que je trouve dommage qu'elle n'existe plus aujourd'hui, d'ailleurs. Et en plus, on avait des cours. Un bon militant, il devait avoir lu Pulitzer et il y avait les écoles du parti. Alors j'avais les cours de la fac où franchement, les cours d'histoire sur Poincaré, Jules Ferry, les grands Lorrains, etc., etc., ça me barbait, c'était toujours une histoire vue d'en haut, des élites, etc. Et puis là, dans la Nouvelle Critique, vous voyez les publications du Parti communiste, des étudiants plus avancés que nous, des philosophes souvent, qui nous expliquaient, qui nous encadraient. On avait des ateliers de lecture, etc. Progressivement, voilà, j'ai découvert le marxisme et puis l'ouverture sur la psychanalyse, sur des tas de choses, si vous voulez. Ça a été extrêmement intéressant pour moi, important dans une formation à la pluridisciplinarité, si vous voulez, qui n'était pas encore tellement tournée vers la sociologie, mais qui était, voilà, quand même une conception de l'histoire très ouverte. Et puis, l'autre élément tout à fait déterminant, c'est que parmi mes professeurs, je parlais tout à l'heure de ceux qui n'ont pas gardé un excellent souvenir, mais il y en a eu d'autres, et notamment des professeurs d'histoire médiévale. Deux d'entre eux, qui ont été professeurs d'ailleurs à la Sorbonne après, Robert Fossier et Michel Paris. Robert Fossier, ce que je lui dois, je ne lui ai jamais dit d'ailleurs, je crois que j'ai jamais parlé avec lui. Mais voilà, oui, c'est qu'il nous avait donné, c'était à la fin du DEUG, je crois, à faire une petite recherche. Pour la première fois de ma vie, l'histoire, c'était plus seulement apprendre des trucs par cœur, voyez. C'était aussi agir, faire soi-même, découvrir, enquêter, etc. Et donc, moi, j'ai choisi de faire un sujet sur le diable et ses œuvres au Moyen-Âge. Je suis tombé dans une passion. D'ailleurs, j'ai passé un temps fou là-dessus. J'ai eu une très, très bonne note. Enfin, vous voyez, ça a été... J'ai retrouvé ce que j'avais vécu peut-être quand j'étais à l'école primaire, c'est-à-dire le goût de l'écriture, les satisfactions, les compliments, etc. Et là est née l'idée que j'ai découvert que, tiens, on peut faire son métier de son plaisir ou de sa passion. Mais je me disais, moi, j'y arriverai jamais, vu d'où je viens, vu ce que je suis. Les études, c'était comme si, comme ça, je faisais juste ce qu'il fallait pour passer en deuxième année, en licence, etc. Et là, c'est Michel Paris, qui lui-même venait d'une famille modeste, qui m'a dit, mais si, vous pouvez y arriver, il faut passer l'agrégation, donc voilà, mais il n'y a pas de raison, mais il faudra travailler, quoi, ça, c'est sûr. Et donc, j'ai changé du tout au tout. Même les profs ne me reconnaissaient plus. Il disait, mais c'est pas le même.
T'es redevenu un bon élève.
Un bon élève, mais alors je me suis autodiscipliné. Fini les booms, fini même le militantisme, je me suis mis en veilleuse et je me suis mis à travailler, etc. Et ça m'est resté. Parce qu'après, quand j'étais moi-même prof ou que j'ai eu la possibilité d'encadrer des étudiants, je me suis rappelé de moi-même. Je me suis toujours dit, ceux-là, peut-être que là, en ce moment, ils n'ont pas un niveau terrible, mais. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aura pas un moment déclencheur où ils vont devenir, justement, vous voyez? Parce que ceux qui ont souvent eu des facilités, moi j'en ai vu après, quand j'étais prof à Normal Sup, tout ça, vous voyez, des gens qui avaient, voilà, des très bons élèves, parce qu'ils venaient d'une famille CSP+, etc. Mais très vite, la recherche, ils s'en désintéressaient. C'était pas les passionnés de la recherche. Il y en a, hein, mais certains préféraient après faire l'ENA, vous voyez, bon, d'autres carrières plus valorisantes, etc. Alors que d'autres qui, dans mon profil à moi, c'était une passion. La recherche, c'était pour la vie. Donc, cette expérience que j'ai vécue moi, voilà, je me suis dit, il y en a d'autres aussi qui doivent la vivre et je dois essayer de les aider à faire un itinéraire comparable à celui que j'ai pu avoir moi-même.
Mais ce qui est intéressant en même temps dans votre parcours très tôt, Gérard Noiriel, c'est que non seulement vous faites de l'histoire, mais vous vous lancez aussi dans la sociologie. Vous avez fait une licence de sociologie à Nancy en même temps que l'histoire.
Alors voilà, alors ça c'est un petit peu plus tardif.
C'est au tournant des années 80.
Oui, voilà, c'est parce que, en fait, donc...
C'est que j'avance un peu dans le temps.
Voilà, voilà. Après l'agrégation, donc, c'était le moment du service militaire. J'étais toujours membre du Parti communiste à l'époque et je me suis dit, je veux servir la cause du prolétariat. Et donc, j'ai demandé à faire mon service militaire à la coopération en République populaire du Congo.
À Brazzaville.
À Brazzaville. Donc, j'ai passé 2 ans à Brazzaville au moment où il y a eu un coup d'État. Le président Ngouabi a été assassiné. Donc, si vous voulez, là, j'ai découvert ce que c'était vraiment la lutte des classes. Parce que, si vous voulez, le Congo, la République populaire du Congo, c'est un petit pays. 1,4 million à l'époque, 1,4 million habitants, un truc comme ça. Plus du tiers habitait à Brazzaville. Et nous, en tant que gens intéressés par la vie politique, on connaissait les élites du pays. Avec un copain philosophe que j'avais découvert là-bas, on faisait des cercles marxistes pour contrer l'influence de l'Église catholique qui était très importante. J'avais même été convoqué par l'ambassadeur qui m'avait fait comprendre qu'il fallait que je modère un peu mes ardeurs si je voulais pas être envoyé en bataillon disciplinaire. Bref, donc il y avait cet engagement. Et puis en même temps, la découverte que j'y comprenais rien. Que ce qu'on m'avait inculqué, je lisais l'Humanité, moi, tous les jours, sur la lutte des classes, etc., ça fonctionnait pas. C'était des cadres européens adaptés à des situations où, vous voyez, qui étaient beaucoup plus compliquées en Afrique, avec les logiques tribales, enfin, avec beaucoup de choses qui se conjuguaient. Mais malgré tout, quand il y a eu le coup d'État, couvre-feu, etc., nous, on cachait parfois l'opposition dans nos cases, etc. Enfin, c'était extrêmement dur, hein. Donc, ça m'a marqué aussi, ça. Et donc, voilà, je suis parti après, au bout de 2 ans, en comprenant que finalement, réussir à changer les choses, c'était plus compliqué qu'on ne pouvait le penser. Et donc après, je suis revenu en Lorraine et c'est là que j'ai eu un poste d'enseignant dans le secondaire à Longwy, donc en Lorraine sidérurgique.
Mais ce n'est pas ça qui explique pourquoi vous vous êtes lancé dans la sociologie ?
Non, à cette époque-là, j'étais toujours marxiste. Hein. Je me souviens, j'avais acheté les œuvres complètes de Lénine, hein, 45 volumes. Bon, je n'ai pas tout lu, hein, je dois dire. Mais pourquoi le basculement vers la sociologie ? Ça, c'est l'époque longovicienne. C'est-à-dire, j'arrive après la coopération, j'ai un poste, on m'envoie en Lorraine du Nord. Le PIO, on appelle ça. Il faut voir que la Meurthe-et-Moselle, c'est un département tout en longueur, Moi, je connaissais le sud de la Meurthe-et-Moselle, c'est-à-dire la Meurthe-et-Moselle tertiaire, universitaire, etc. Mais le nord de la Meurthe-et-Moselle, c'était la Meurthe-et-Moselle ouvrière, la sidérurgie, les grandes usines, le bassin de Longwy, un tiers de l'acier français dans les années 50. Voilà. J'arrive dans ce milieu-là, prof dans un collège, avec des enfants, tous les parents étaient ouvriers, et je suis communiste. D'emblée, je vais dans la cellule locale avec, et je suis vraiment enthousiasmé. Enfin, je veux dire, c'est le prolétariat tel que je l'avais rêvé en lisant Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'était vraiment, voilà, une sorte de, c'était vraiment une expérience tout à fait extraordinaire de solidarité, de, voilà, de complémentarité, etc. D'ailleurs, j'ai pas été le seul. Je pense aussi à un autre intellectuel qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours, Serge Bonnet, le sociologue, qui était dominicain, lui, et qui a écrit sur les hommes du fer, hein, et qui, lui aussi, bien qu'il n'était pas communiste, hein, mais il a été fasciné par cette société ouvrière-là. Et donc, 79, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais là depuis 77, fermeture des usines. Le plan d'Avignon. Rayé de la carte. Vous avez Denain, Longwy, rayé de la carte. Vous voyez, toute une population qui avait construit son identité collective, toutes ses formes de sociabilité, d'intégration, parce que c'était aussi le premier arrondissement de France pour le taux d'immigration, depuis le début du XXe siècle jusque dans les années 60-70. Donc c'était un laboratoire. Moi, je ne le savais pas au début, mais je l'ai découvert. Et donc, on voyait comme ça que, par le capitalisme, disons, était en train de liquider cette sidérurgie. Alors j'aime bien, parce que les experts de l'époque qui nous disaient qu'on était des ploucs, des arriérés, parce qu'on disait « nous voulons vivre, travailler au pays, il faut garder la sidérurgie en Lorraine », maintenant ils viennent nous dire qu'on n'aurait pas dû désindustrialiser. Alors vous voyez quand même, voilà, bon, la sagesse où elle est. Hein. Vous voyez comme pourquoi j'ai gardé un peu une certaine humeur critique par rapport aux experts et à ceux qui prétendent dire ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'on pense, etc. Donc moi, je l'ai vécu là-bas. J'ai participé à cette lutte qui a été extrêmement violente. Moi, j'ai participé à l'attaque du commissariat de police. On a occupé le relais télé parce qu'on avait marre de la manière dont la télé présentait ces sidérurgistes comme des brutes, quoi, qui est incapable de manier l'ordinateur parce que soi-disant qu'il fallait, vous voyez, diversifier, qu'il fallait changer l'économie, bref. Et donc, c'est à ce moment-là, en participant à la lutte, j'ai vu aussi l'écart qui s'était construit entre une direction, les apparatchiks, si vous voulez, qui répétaient ce que la direction du parti avait dit à Paris, et puis la base. Mais ce n'était pas que pour le Parti communiste. Dans mon livre qui s'appelle « Vivre et lutter à Longwy », qui est mon premier livre.
Quel premier ?
Eh bien, je fais la critique aussi de la CFDT nationale par rapport à la CFDT locale, la CGT. Toutes les organisations étaient en porte-à-faux par rapport à un mouvement de base, si vous voulez. Donc ça a été ce moment-là, où je me suis rendu compte que, ben oui, l'écart entre la réalité d'un mouvement social et les porte-paroles. Qui parle au nom d'eux? Et c'est à ce moment-là, Bourdieu venait de sortir justement la distinction, et j'ai découvert, voilà, ce livre-là. Et alors là, je me dis, mais il explique ce que je ressens depuis, à la fois maintenant, par rapport pour expliquer ce décalage entre une élite et puis une base, et puis par rapport aussi à tous les autres aspects de la dignité, de ce qu'il appelle la violence symbolique, etc. Donc c'est vrai que je suis tombé dans la sociologie. Alors j'ai fait une licence à Nancy, voilà, mais je suis entré en contact avec Bourdieu, avec des sociologues parisiens, Touraine aussi, etc., pour vraiment me donner une formation sociologique qui soit poussée par le fait, aussi poussée que ce que j'avais faire une histoire.
Bah, poursuivons un peu ce que vous devez à Pierre Bourdieu, Gérard Noiriel, puisque dans « Penser avec, penser contre », que j'ai déjà cité, vous écrivez « De tous les auteurs avec lesquels j'ai tenté d'apprendre à penser, Pierre Bourdieu est sans doute celui qui m'a le plus marqué. Sa sociologie a été omniprésente dans mon travail. » Et c'est vrai que dans l'épisode 1, vous l'avez déjà cité au moins deux fois, Bourdieu. Donc, que devez-vous à Bourdieu?
Je dirais c'est cette dimension à la fois d'auto-analyse, c'est-à-dire de ne pas s'exclure soi-même des analyses critiques qu'on peut faire. Ça, je trouve c'est exceptionnel. Je le vois encore tous les jours aujourd'hui. Chaque fois que je dis à mes collègues universitaires, il faudrait peut-être s'interroger, ou militants antiracistes, etc., il faudrait peut-être s'interroger sur ce qui n'a pas été dans ce qu'on a fait, nous. Je me heurte à des murs. Et donc, quand Bourdieu, notamment dans les méditations pascaliennes, par exemple, fait la distinction entre l'intellectuel et le savant, moi, je le ressens très fortement. La distinction entre les deux. C'est pour ça que je suis assez critique par rapport à ceux qui disent tout est politique. Non, il faut défendre l'autonomie de la science. La science est une discipline critique, mais elle n'est pas politique. Elle peut avoir des conséquences politiques, bien évidemment. Mais si on confond les champs, eh bien, je trouve qu'on va dans le mur. Et Bourdieu, justement, quand il distinguait les deux rôles qu'il pouvait jouer, moi, c'est pareil. J'ai un rôle aussi d'intellectuel où je vais intervenir, signer des pétitions, des choses comme ça. Mais c'est pas la même chose que le savant. Le savant, il doit prendre du recul pour analyser aussi les contradictions des causes qu'il défend, par exemple, vous voyez. Donc ça, c'est mon expérience aussi avec le Parti communiste. Hein. L'analyse que j'ai produite à ce moment-là a valu une exclusion.
Vous avez rompu. Vous avez été exclu, mais ça revient au même.
Il n'y a pas eu de procès de Moscou, mais il y a eu quand même à Lorraine Cœur d'Acier une émission qui a duré 6 heures où on a été traité. Je dis « on » parce que, vous savez, ce livre, je l'ai écrit aussi avec un travailleur immigré marocain, parce que c'est aussi une de mes tendances.
Benacer Azaoui, on va
Benacer Azaoui. Quand la critique des porte-paroles, eh bien, si vous l'appliquez à vous-même, moi, je me suis dit, je ne vais pas parler à sa place. Donc, j'ai négocié avec Maspero pour que...
L'éditeur,
pour que lui-même puisse s'exprimer directement. Et donc, il a parlé de son expérience, des formes de discrimination qu'il pouvait subir au sein de la CGT, etc. Donc, tous les deux, on a été convoqués par la direction du parti local. Il y a eu une grande émission à Lorraine Cœur d'Acier, où finalement, bon, en tout cas moi, j'ai été traité comme un petit bourgeois qui faisait le jeu du grand capital. Enfin, vous voyez, ce genre de truc, quoi. Donc ça a été effectivement, pour moi, très très dur à assumer.
Je fais juste une parenthèse, pardon, oui. Gérard Noiriel, mais Lorraine Cœur d'Acier, ça ne dit pas forcément grand-chose à nos auditeurs, à nos auditrices. C'était une radio libertaire, hein, au moment où elle n'était pas encore libre, les radios libres.
Oui, oui, c'est ça.
C'est une radio libertaire qui a été montée par la CGT.
Voilà.
Lorraine Cœur d'Acier, au tournant des années 80, 79-80, en plein cœur de la lutte de la population du bassin lorrain contre le plan de restructuration et de fermeture des usines sidérurgiques. Le principal animateur, c'était Marcel Trias. Et vous aviez un moment d'histoire que vous aviez intitulé « Passé-présent ».
Voilà, bon. C'est ça. Oui, c'est grâce à Marcel qui est devenu un ami, hein, qui a marqué vraiment l'histoire de cette région et qui a fait de cette radio une véritable ouverture dans un monde et qui était confiné, etc. Donc, après, il y avait autant de gens qui défendaient la radio que défendaient l'emploi. Je dirais, c'est devenu une cause, vous voyez. Donc, ça a été extrêmement important, oui, cette radio Lorraine Cœur d'Acier. Et donc, oui, j'ai apporté ma petite pierre à cette entreprise.
Alors, revenons à votre itinéraire intellectuel. Donc, Pierre Bourdieu, à qui vous devez énormément. Marx, on l'a laissé de côté,
oui.
D'une certaine façon.
Oui, mais je dois
mais
aussi des
vous
choses à Marx.
Vous lui devez aussi beaucoup, oui. On l'a bien compris. Il y a aussi un philosophe qui a beaucoup compté. Dans ces années-là, vous le découvrez assez tôt, au début des années 80, c'est Michel Foucault.
Oui, voilà. Alors, effectivement, alors c'est pour ça, dans Penser avec, Penser contre, j'explique. Moi, je ne suis le fidèle ou l'adepte ou le disciple de personne. J'ai puisé dans les auteurs que je lisais les outils qui m'étaient utiles dans mon travail et dans ma propre réflexion aussi.
Aucun n'est un maître à penser, ce sont des sources d'inspiration, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, parce qu'on pourrait me dire, oui, mais entre Bourdieu et Foucault, c'est vrai qu'il y a des grandes différences, il peut y avoir des contradictions, etc., entre le philosophe, le sociologue. Mais moi, dans Foucault, j'ai trouvé des choses, justement, qui m'apportaient, qui tournent autour de ces questions aussi d'identité, etc. Voilà, voilà. Donc j'ai aussi puisé chez Foucault des éléments qui me permettaient aussi de nourrir un petit peu intellectuellement mes distances par rapport à l'historiographie classique, je dirais. Parce que l'historiographie classique, même de gauche, que j'ai acquise au départ, c'était les annales, histoire économique et sociale. Donc si vous voulez, c'était une version un peu simplifiée du marxisme. Vous aviez en bas l'économie, le social au milieu et le politique au-dessus. Voyez, donc à la fois la sociologie et ce que Foucault raconte sur le pouvoir, sur les formes de les relations de pouvoir, etc., permettaient de rompre avec ce schéma et de montrer que les rapports de domination se construisent autrement. Donc ça a été très important pour moi quand j'ai travaillé sur l'immigration, parce que je refusais de voir l'immigration comme une superstructure, comme simplement une action de l'État. C'était beaucoup plus profond, ça touchait tous les secteurs, à la fois de l'économie, de la société, etc.
Oui, vous vous rappelez aussi qu'en 1978, puisqu'on est dans ces années-là, Gérard Noiriel, il y a eu un ouvrage de l'historien Paul Venn,
oui,
qui parlait de Michel Foucault, « Comment on écrit l'histoire », oui, qui a été réédité en poche avec un texte inédit, dans lequel il décrivait pourquoi Foucault révolutionne l'histoire. Et justement, ce texte a eu une très grande importance pour les historiens de votre génération, parce que vous étiez, oui, quand même là un historien en gestation.
Voilà, oui, oui, oui. Mais je dirais que peut-être ma lecture de Paul Venn n'a pas été celle de mes camarades. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand même pas mal de critiques à faire sur ces historiens qui s'improvisaient un peu philosophes par le fait. Donc moi, ma lecture de Foucault, elle passait pas par ces grands élans de théoriques, épistémologiques. C'était plutôt des outils, quoi. Ou ce que surtout la figure que Foucault défend de l'intellectuel spécifique. L'intellectuel spécifique. Dans mon livre sur les intellectuels, j'ai distingué justement...
Les fils maudits de la République.
Voilà, j'ai distingué différents types d'intellectuels entre, j'appelle l'intellectuel du gouvernement, c'est une phrase de Peggy que j'ai reprise à mon compte, l'intellectuel révolutionnaire, genre Sartre, l'intellectuel spécifique, voilà, c'est celui qui utilise des outils qui viennent de sa recherche pour aider les gens à mener leur lutte, en gros, je simplifie, etc. Donc ça me parlait, parce que c'est ce que j'essayais de faire aussi à Longwy. J'ai créé une association, j'ai toujours, on en reparlera peut-être, mais eu un rôle important dans la création d'associations. Ça me permettait de garder un pied en dehors du monde universitaire où j'ai jamais été complètement à l'aise, malgré tout, hein. Et surtout que, bon, j'ai eu la chance d'être dans des institutions assez prestigieuses, etc. Et donc, j'avais besoin d'avoir un ancrage dans d'autres milieux. Et donc, à Longwy, j'ai créé une association pour l'étude et la défense du patrimoine, où on a commencé à faire des histoires de vie, etc., et à former des gens, on a formé des poètes. Marcel Donati, par exemple, qui était un ouvrier, devenu un poète reconnu, il y a même eu une émission sur lui, avec lui, sur France Culture, etc. Donc ça, c'était pour nous, voilà, une manière de jouer son rôle d'intellectuel spécifique.
Vous parlez de ces institutions prestigieuses que vous avez malgré tout pénétrées, Gérard Noiriel, vous êtes passé quand même des marges, ou de la marge de l'université avec un grand U, au cœur de l'élitisme français, puisqu'en 1985, vous avez été nommé, alors Prague, c'était professeur agrégé, détaché, oui. À l'École normale supérieure, qui est temple de la République française, de la méritocratie française. Vous êtes devenu l'assistant d'un sociologue.
Oui.
Donc là encore, sociologie, histoire. Oui. Le sociologue Jean-Claude Chambaud-Redon.
Oui.
Vous avez aussi à ce moment-là nourri un certain nombre de liens avec l'anthropologue Alban Bansa. Donc on voit à quel point, pour vous, l'histoire s'est nourrie d'autres disciplines des sciences sociales, d'où cette socio-histoire que vous allez progressivement mettre en place. Donc qu'est-ce que vous faites à l'UNS à ce moment-là?
Ben, si vous voulez, donc le combat que j'avais mené avec mes amis à Longwy sur la sidérurgie, et ma critique du Parti communiste, m'a amené à la conviction qu'il fallait que je fasse ma thèse. J'ai abandonné l'histoire médiévale, j'ai écrit un article en histoire médiévale sur la chanson de geste en Lorraine, sous la direction de Michel Paris. Et après, d'abord, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment armé intellectuellement, j'avais pas fait de latin, truc comme ça, donc bon, le haut allemand qu'il fallait maîtriser, etc. Donc il y avait aussi une question d'opportunité, peut-être. Mais c'est surtout cette lutte de Longwy, où on disait pour l'emploi, ou je sais plus, les produisons français, enfin, les gens comprenaient pas. Surtout quand il vit les extérieurs, parce que c'est une lutte qui a été beaucoup couverte par les journalistes, etc. Mais ils ne voyaient pas l'histoire de cette population, de ces immigrants qui s'étaient installés là, qui avaient contribué à forger société grâce à leur travail dans les mines, dans la sidérurgie. Et donc j'ai décidé de faire ma thèse avec Madeleine Robériot, que j'ai contactée à ce moment-là, donc grande historienne, militante aussi, etc., qui a accepté de me diriger donc sur les ouvriers du fer en Lorraine. Donc c'est Étienne Balibar a accepté de la publier dans sa collection. Alors je connaissais Étienne Balibar parce que j'étais dans la mouvance althussérienne du Parti communiste. C'était la gauche du Parti communiste avec Louis Althusser, avec Étienne Balibar. Et donc on a vu des contacts comme ça. J'avais milité aussi dans Union dans les luttes. C'est un mouvement 80, juste avant les élections de 80, qui essayait de rassembler des socialistes et des communistes dans un front commun. Bon, la politique m'avait amené à un début de socialisation avec le milieu parisien. Hein. Et donc, j'ai fait ma thèse, qui a été publiée en 84 au PUF. Et donc, cette thèse faisait déjà beaucoup référence à la sociologie. Bourdieu est déjà assez présent. Et elle brasse une période qui va de 1880 à 1980. Et c'est ce bouquin-là qui a séduit aussi Jean-Claude Chambaud-Redon par le fait. Et après ma thèse, moi, j'ai candidaté partout. Dans toute la France, depuis les IUT de Belfort jusque... Voilà, et j'étais recalé partout. Et tout d'un coup, je reçois un jour une lettre, École normale supérieure, voilà, veuillez vous présenter, pour un entretien, bon. Alors moi, je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs écoles normales supérieures, hein. Saint-Cloud, j'ignorais tout ça. Si vous voulez, c'était un univers que j'étais... C'est à l'oral de l'agrégation, quand j'ai passé l'oral à la Sorbonne, c'était la première fois que j'allais à Paris. Brutalement, vous êtes comme ça dans les amphis de la Sorbonne.
Jusque-là, Paris ça. Était arrivé à vos oreilles par Europe numéro 1.
Voilà, jusque-là, c'était ça. Senti. Bref, donc, il y avait ce côté-là. Et puis, bon, la rue d'Ulm, vous voyez, bon. Mais d'emblée, il y a quelque chose s'est passé avec Jean-Claude Chambordon, quoi. Il y avait, voilà, ça a été une entente réciproque, il m'a fait confiance. Et donc, lui venait aussi d'un milieu de Marseille modeste, de... instituteur, etc. Donc, il avait ce côté de volonté d'ouvrir l'école normale sur des non-normaliens, par le fait. Et c'est surtout parce que, comme j'avais la double formation en histoire et en sociologie, et on m'a demandé de m'occuper d'un DEA, on appelait ça un DEA à l'époque, expérimental, qui venait d'être créé par la gauche au pouvoir quelques années plus tôt, qui était interdisciplinaire. C'était donc un engagement autour de l'interdisciplinarité et qui associait l'école normale supérieure et l'école des hautes études. On était à cheval sur les deux et donc je me suis retrouvé un petit peu comme étant la cheville ouvrière de ce DEA et j'étais chargé, alors on discutait, il y a un comité scientifique, c'est là que j'ai fait la connaissance de gens, si vous voulez, quand je suis arrivé là, parce qu'on me dit, bah oui, mais alors pour toi, ça a dû, vous savez, là, le mépris de classe, t'as dû subir, vraiment, les gens ont dû dire, qu'est-ce qui vient nous embêter, celui-là, dans notre petit... Mais j'ai pas subi ça. J'ai pas subi ce que beaucoup racontent aujourd'hui sur les formes de mépris social que la bourgeoisie intellectuelle peut infliger à des gens qui viennent de milieux modestes. Déjà parce que j'étais plus adolescent. C'est souvent des trucs de classe prépa, ça. Hein. Quand vous lisez Bourdieu, vous voyez bien que c'est ce qu'il a vécu à Louis Le Grand qui raconte. Hein. Moi, je suis arrivé plus tard. J'avais plus de 30 ans déjà. J'avais déjà publié un bouquin, voilà. Et en plus, le milieu dans lequel je suis arrivé, c'était pour moi la cité savante. Je retrouvais des gens, et je les défends encore aujourd'hui. Je suis tombé dans un petit milieu, Jean Bazin, Jacques Revel, voilà, des gens qui, oui, on était là ensemble autour d'une même définition, une même conviction, etc. Alors, moi, je restais extérieur quand même à ce monde-là. Moi, j'ai toujours voulu vivre en banlieue, je vis en banlieue, et donc de l'autre côté du périphérique. J'étais pas dans la sociabilité parisienne. Donc, je ne voyais, c'était pas vraiment des amis, j'avais pas d'amis. J'avais que des relations professionnelles. Mais ces relations professionnelles, je n'avais rien à leur reprocher. J'étais vraiment, on était tourné vers un idéal scientifique. Ça existait. Et j'ai eu tendance à universaliser. Dans ce petit milieu qui était autour du conseil scientifique du DEA, tel que je l'ai vécu moi, je ne vais pas généraliser, d'autres auraient peut-être d'autres opinions, je me sentais à l'aise. C'était, voilà, j'avais toute liberté en plus. C'était la liberté de faire mes recherches, de faire des séminaires avec des élèves qui sont devenus souvent des collègues après, autour de l'histoire de l'immigration. Enfin, on avait... Donc c'était vraiment extraordinaire comme chance par rapport à mon itinéraire et par rapport à ce que d'autres pouvaient vivre. Donc ça a été extrêmement fructueux pour moi et du coup ça a décuplé mon envie aussi de devenir un savant. Ça, c'était important.
Et c'était une réussite, Gérard Noiriel, puisque c'est dans ce cadre-là que vous publiez coup sur coup deux livres majeurs aux éditions du Seuil qui ont lancé votre carrière de chercheur et fait votre réputation. En 1986, Les ouvriers dans la société française, 19e, 20e siècle. Et en 1988, Le creuset français, histoire de l'immigration en France. Ce sera donc le sujet de notre prochain épisode, bien entendu. On se retrouve demain. À suivre l'épisode 3, les relations de pouvoir, ouvriers, immigrés, État-nation.
Très bien, ben merci beaucoup.
Merci à vous.
À demain.
À demain. C'était À Voix Nue avec Gérard Noiriel, réalisation Assia Weber, prise de son Frédéric Héroux et Maëlle Larfassour, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.